Culture Next Door.
Culture Next Door.
Culture Next Door. Les pôles culturels régionaux à la découverte de structures culturelles en Europe.
Le Royaume-Uni, nouvelle étape et théâtre des échanges entre les pôles de la culture du Pays de la Loire et les industries culturelles britanniques. Une semaine de discussions, de conseils et de débats que globalement on peut résumer en un mot très simple.
Brexit.
Oui aussi, mais pas tout à fait lorsqu'il s'agit des industries culturelles. Dans l'industrie culturelle, c'est plutôt...
pragmatique.
Oui, voilà, c'est plutôt ça. Sur ce, je vous propose de partir immédiatement en direction de notre première destination, l'ancienne ville industrielle et bassin minier, maintenant quatrième plus grande ville britannique, mais bien touchée par la désindustrialisation, j'ai nommé Sheffield. Nous y sommes et je laisse la parole immédiatement au maire de Sheffield, surnommé lui-même Magic Majid.
How's your trip been around Sheffield so far? Has anything surprised you about Sheffield?
Et oui, beaucoup de choses nous ont surprises à Sheffield et pas des moindres. C'est ici que nous avons été confrontés pour la première fois au pragmatisme britannique ou comme Magic Majid nous l'exprime.
Sheffield's always, it's the people that really make it and it's always been this attitude of not waiting for other people to tell us what to do or waiting for like the council government. It's always been just, we're just going to go and do it out.
C'était donc la première surprise. La seconde n'était pas une surprise, mais c'est surtout l'étendue de la situation qui nous a choqués. Les fonds publics pour la culture sont quasi inexistants à Sheffield, ou comme nous l'a dit l'une des deux employées du service culturel.
We don't have that budget anymore.
Le constat est celui auquel nous nous attendions, une libéralisation de la culture. Pourtant, les difficultés de conversation entre le monde de l'économie et la culture semblent être similaires à la France, comme nous l'a dit Michel Bourg du pôle musique actuel.
À chaque fois qu'on rencontre plutôt des anglo-saxons en France, sur les industries créatives, il y a vraiment cette notion de business qui est au cœur de l'histoire. Et là, c'est intéressant de constater que, en fait, c'est pas que ça. C'est un peu rassurant, des fois, aussi.
La comparaison rassure aussi Emmanuel Garcia de Mobilis, pour qui une bonne part du pragmatisme des organismes qu'on rencontre à Sheffield provient justement de ce contexte.
La différence des solutions, elle vient surtout du fait qu'on est dans des contextes quand même différents, politiques et financiers. Donc ça nous permet de nous réassurer et de nous souvenir à quel point quand même on a de la chance de pouvoir agir dans ces contextes-là. On est quand même des organisations qui sont nées bon, de l'impulsion des professionnels, mais soutenues immédiatement par les institutions qui, eux, ont bien vu et su repérer qu'il y avait de l'importance à contribuer au soutien des réseaux.
Un constat que partage Lise Baron de la plateforme, pour qui il y a vraiment une énorme différence de structuration historique.
Il faut aussi se rappeler ce que ces deux systèmes fondamentalement différents. Il y avait plus de financement à un moment, mais il nous a bien dit que après la guerre, on a chez nous n'a jamais existé. Et effectivement, on se demande tout le temps où sont les financements publics. Mais en fait, je crois qu'ils se posent pas tellement de questions. Par exemple, Jane, ils ont fait leur truc avec du crowdfunding et tout ça, et elle a pas eu l'air de dire que mince, et on n'a pas voulu nous soutenir. Au contraire, elle disait que la ville soutenait beaucoup, voilà, moralement. Elle trouvait ça super et tout, mais elle n'avait pas l'air de se plaindre du fait qu'il n'y avait pas de budget. J'ai l'impression qu'en fait, ça n'entre pas dans leur schéma, quoi.
Mais pour Michel, il s'agit bien plus d'une réaction récente à la disparition des financements publics qu'il craint de voir arriver en France. L'intérêt est donc, comme il le dit, de trouver des solutions pour l'après.
Et les projets étaient très récents. Les deux projets, ils ont 5 ans, donc c'est aussi une manière de réagir et de rebâtir autre chose. C'est peut-être ça qui est intéressant à voir ici. Le coup d'après, en fait.
Il relativise tout de même et trouve des points de comparaison entre la situation britannique actuelle et la situation française des années 80.
Quand on revient sur les musiques actuelles dans les années 80, en fait, c'était à peu près dans l'état où c'est là actuellement. Il n'y avait pas de politique publique au début des années 80. Il n'y avait pas de politique particulière, il n'y avait pas de financement particulier, pas de structuration particulière. C'était un travail de militants qui étaient généralement des bénévoles. Eux, ils ont eu une destruction et ils sont en train de rebâtir quelque chose. Nous, en fait, on pense par rapport à notre acquis, qui est un acquis où il y a eu un très fort soutien du public au secteur culturel, que là, en ce moment, c'est en train de se déliter. Eux, ils sont dans une autre dynamique.
C'est peut-être cette différente dynamique qui les incite à trouver de nouvelles méthodes de fonctionnement, Un exemple notable, le time banking. C'est en tout cas une stratégie qui a attiré Emmanuel.
Ce que je repère, c'est peut-être une manière plus spécifique de valoriser l'implication des membres pour les rendre vraiment directement productifs, ces implications productives donc, reconnaissables, légitimes du point de vue du time banking, le fait d'avoir un compte de temps qu'on donne au collectif et qui nous revient, qu'on peut utiliser d'une autre manière. Ça, je trouve ça assez pratique et pragmatique et certainement, ça peut faire, là aussi, effet de levier pour encourager des personnes à venir nous rejoindre ou contribuer sans avoir l'impression d'y laisser tout leur temps.
Concrètement, le time banking, c'est donc une méthode d'acheter un coup de main sur quelque chose de spécifique. À Sheffield, les membres disposent de 10 crédits à l'adhésion. Un crédit égale une heure de coup de main. À partir de la base de données de l'organisation, les membres rentrent leurs compétences et ceux qui souhaitent profiter de leur expertise peuvent les retrouver de cette façon. Emmanuel n'est pas la seule qui serait intéressée par l'importation de ce processus. Yann Bizan, du pôle musique actuelle, lui aussi y voit plus ou moins les mêmes avantages qu'Emmanuel.
Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'informel, ce qui est très bien. Tout ne doit pas être formalisé, mais en même temps, en termes de valorisation, c'est un plus quand c'est valorisé parce qu'on reconnaît les compétences là où elles sont et du coup, ça valorise les pratiques des personnes qui détiennent ces compétences.
Pour autant, il ne pense pas que le mécanisme pourrait être importé tel quel.
Pour eux, le time banking, ça fait partie du contrat de base. Chez nous, ce n'est pas le cas, donc il faut l'instituer. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, prend 4-5 ans à vraiment prendre sa vitesse de croisière, en fait.
Certaines oppositions sont soulevées par le reste du groupe. Emmanuel l'entend, mais pour elle, le principe doit pouvoir être essayé.
Moi, là, j'y vois pas énormément de points négatifs. J'entends dans le groupe que ça suscite, par exemple, des problématiques autour de l'économisation d'un temps bénévole. Moi, je crois que tous mes bénévoles, leur problématique quand ils viennent, c'est justement que ce temps de bénévolat, ça leur prend du temps sur un temps d'affaires. Mais si ce temps bénévole, en fait, il est traduit directement en qu'est-ce que ça me rapporte et qu'est-ce que j'apporte pour que ça me rapporte, ça se tente.
Autre surprise, le rôle important des universités et plus largement celui que les étudiants ont dans la réflexion des organismes de la culture de Sheffield. Comme l'explique Benoît-Marie Morisseau du pôle art visuel, la place des nouvelles générations doit rentrer dans la réflexion de leurs organisations.
Il y a une vraie prise de conscience de la nécessité d'impliquer les étudiants dans ces considérations professionnelles qui sont assez peu abordées finalement dans les enseignements artistiques. Dans le pôle art visuel, on a mis en place un système d'accompagnement pour les jeunes diplômés pour qu'ils puissent découvrir des lieux de diffusion, rencontrer des professionnels, mais rencontrer aussi des artistes dans leur contexte de travail avec une approche qui est plutôt une approche professionnelle.
Emmanuel souligne quant à elle les difficultés qu'ont les mondes de la culture à rentrer en accord avec les universités, mais elle tombe elle aussi d'accord sur la nécessité d'impliquer les jeunes dans leurs réflexions.
Les universités en général, on a beaucoup de mal à collaborer avec elles en France pour des questions de difficultés d'échange. En fait, c'est une culture, l'université. Et donc, on a du mal, quand on est à l'extérieur, à accéder à ce monde-là, en fait. Alors qu'on sent très bien qu'il y a d'immenses et de très nombreuses passerelles qui pourraient être faites, on peine un peu à développer ça. Mais c'est vrai que finalement, même si ici ça choque un peu de voir que finalement l'université se substitue en fait aux politiques publiques pour devenir un partenaire de premier choix et voire un financeur, en fait ça laisse penser qu'il y a de beaux jours devant nous aussi directement en France dans l'optique de développer des meilleures relations avec les services culture des universités. Et les jeunes d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain, c'est donc ceux aussi qui dans la société civile vont avoir des enfants et éduquer les enfants à mieux connaître la culture. Donc en plus on voit assez directement les bénéfices qu'on peut avoir dans un objectif de développement.
Mais la place de l'université dans le monde de la culture ne se limite pas à l'impact des générations futures chez les Britanniques. À Sheffield, elles ont aussi un énorme impact sur l'investissement et sont de fait l'une des principales sources de subventions. La vaste majorité, pour ne pas dire la totalité des organismes rencontrés à Sheffield, tirent leur chapeau à cette implication dans leur travail. Emmanuel voit cette propension arriver à son tour en France.
On entend bien que dans les réformes, il y a cette partie-là qui s'ouvre avec les fondations d'université, les fonds de dotation, les financements privés entrent à l'université et cet argent-là sera réutilisé pour développer l'attractivité des universités et donc des territoires dans lesquels elles sont implantées.
Et c'est donc la raison principale invoquée pour cet investissement des universités dans la culture, l'attractivité de l'université. Au Royaume-Uni, la concurrence entre les universités les incite à développer leur environnement proche pour attirer les étudiants et les enseignants pour un cadre de vie agréable tel qu'elle le propose. Une problématique que connaissent les Pays de la Loire, comme l'explique Lise.
De même, parce que justement, les familles, enfin les gens qui créent une famille à Paris ensuite se retrouvent à l'ICTROIT et du coup quittent Paris. Et c'est vrai que dans le cinéma et l'audiovisuel, il y a un mouvement assez important de gens qui viennent. Donc on n'a pas tellement besoin de les faire venir. La question, c'est plutôt que vu que les décideurs et beaucoup de sociétés continuent d'être à Paris, il y a une tension entre les gens qui arrivent et comment le territoire pourrait faire en sorte qu'ils puissent travailler sur place et pas seulement uniquement dans un lien avec Paris.
Ce qui développe en parallèle un récit, un storytelling dans lequel les acteurs d'une région tentent de s'inscrire, ce qu'elles voient plutôt comme un mal nécessaire.
Le principe du storytelling, heureusement ou malheureusement, c'est quelque chose qui est rentré dans la norme et on doit tous un peu en tant que collectivité ou même en tant qu'être humain, des fois, on est un peu obligé de s'inventer notre propre histoire pour pouvoir se vendre. L'idée me plaît pas tellement comme ça au premier abord, mais je pense que ouais, pour des régions et pour que ça fonctionne, des fois elles sont obligées d'en passer par là.
Pour autant, elle ne pense pas que ce soit un rôle principal que doivent jouer les pôles, mais plutôt celui des politiques, tout en considérant que les premiers peuvent souffler des idées aux responsables.
Effectivement, je pense que c'est plus du côté politique. Après, je pense que chacun des pôles est là aussi pour souffler des idées à l'oreille des élus.
Enfin, dernier apprentissage de Sheffield, l'utilisation de certaines applications pour rentrer en contact avec sa communauté. Benoît-Marie voit immédiatement des applications à son travail et le pourquoi de telles utilisations sont monnaie courante au Royaume-Uni.
Ils vont essayer de créer des connexions entre les gens, comme étant éventuellement quelque chose de compliqué à mettre en place. Et en fait, on se rend compte que non, les outils existent. On ne les connaît pas, on ne les maîtrise pas, mais on sait que ce soit par Slack ou Trello, on pourrait très bien déplacer ces outils-là et les mettre à profit de nos propres initiatives. Et je pense que le fait de pouvoir communiquer davantage entre membres, ce serait vraiment très utile.
Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Angleterre, à Bristol, le terrain est intégralement différent. Contrairement à Sheffield, l'argent pour les structures publiques ne manque pas et les stratégies d'adaptation des structures s'en font ressentir. Par contre, ils utilisent bien les mêmes outils, comme le décrit Julien Dereau du pôle musique actuelle.
Ils partent souvent sur un outil, c'est Slack ou Basecamp. C'est tous des outils un peu collaboratifs pour créer du contenu. C'est pour l'ensemble des adhérents, c'est-à-dire c'est pas uniquement le directeur, mais l'ensemble des équipes qui sont intégrés au contenu, et c'est uniquement les adhérents. C'est-à-dire que si t'es pas adhérent à la structure, t'as pas accès au contenu, quoi. T'as pas accès à l'information. Mais surtout, ça leur permet de modifier la posture de la personne qui reçoit le message, parce qu'on lui envoie pas de l'info, c'est elle qui va chercher de l'info.
Stéphanie Lechêne de Mobilis explique en quoi consiste le Basecamp, qui est...
Un mix entre l'observation, l'animation réseau et la communication, parce qu'en gros, ils collectent des informations, notamment les mails sur tous les gens qui travaillent dans les équipes, parce que souvent, c'est assez pyramidal, on a le contact du directeur, la directrice, et pas des autres personnes, donc voilà, ça permet de récolter tous les mails, et de pouvoir échanger à l'intérieur de ce Basecamp entre les gens. Le risque, c'est que ça prenne pas, parce que ça fait un outil en plus à utiliser et qu'en plus, en termes de réseau, vraiment, l'équipe exécutive perde un peu le lien aussi avec son propre réseau en sous-traitant via des outils digitaux comme ça.
Plus d'argent veut aussi dire plus d'outils, voire un excès d'outils, comme le pointe Julien sur la multiplication de leur site internet.
Ils développent un support web par public cible, par communauté. Ils explosent le truc en mode, c'est des jeunes, donc eux, faut leur parler comme ça. C'est des pros, eux, faut leur parler comme ça. Et ils ont une piste d'entrée, un site web où ils vont vraiment partir sur des façons de parler et même des nominations, parce que du coup, il y a une marque pour chacun des sites web. Il y avait un gros problème, c'est notamment là, les équipes com sont en train de mourir, quoi. Elles crèvent sous le taf.
Comme à Sheffield, la notion de communauté est assez forte, bien plus exprimée que celle de réseau, et c'est bien souvent sur cela qu'ils se reposent pour faire avancer leur agenda, chose qu'il faudrait sûrement importer en France, selon Nathalie Lebert du pôle art visuel.
Peut-être de produire ou d'aider des adhérents à produire des outils communs d'observation pour leur propre pratique ou leur propre thématique de travail, et nous, de récolter des données au global. On pense par exemple à la question des publics. Effectivement, ça pourrait être intéressant.
On retrouve de même une idée semblable au time banking de Sheffield, nommée cette fois-ci Skills Bank, mais celle-ci semble moins bien fonctionner à Bristol, comme Stéphanie l'explique.
La banque de compétences, sachant que évidemment il y a beaucoup de gens qui veulent prendre et peu qui veulent donner, donc c'est assez bancal. Leur système, en tout cas, n'est pas encore très efficace. Pour l'avoir vu dans plein d'autres structures, je ne sais pas s'il existe une recette miracle, mais en fait, il faudrait vraiment travailler dessus pour que ça fonctionne.
De plus, ils font face à un manque d'implication de leurs membres pour la mise en place de ce projet, comme l'explique Nathalie.
L'identification d'expertise et de compétences, un questionnaire qui a été mis en place qui interrogeait les expertises de chaque festival et les expertises dont ils pouvaient souhaiter bénéficier, donc c'était à double entrée, ce dont ils souhaitaient bénéficier et ce que eux pouvaient apporter. Un gros frein, peu de réponses des festivals à ce questionnaire et donc un questionnement sur l'engagement des adhérents à ce sujet. C'est difficile de récolter des données pour construire cette plateforme de mise à disposition de compétences.
Mais ils semblent tenter de compenser ce défaut par le recrutement d'experts, continue Stéphanie.
Alors, comme ils ont énormément de membres, du coup, ils se sont entourés d'une équipe de freelance, d'experts freelance, qui mettent à disposition des membres pour monter en compétences sur un domaine. Donc moi, je veux développer une offre de réseaux sociaux. Du coup, je fais appel au Watershed et ils mettent à disposition un expert qui vient me faire un atelier de 3 heures sur ce sujet-là. Donc là, on est sur de l'individuel. C'est pour les membres adhérents au réseau.
Ainsi que par une composition innovante de leur conseil d'administration.
Ils ont un mode de gouvernance très intéressant puisque ils construisent en fait leur gouvernance avec une composition du conseil d'administration à 50-50 experts internes, c'est-à-dire vraiment des adhérents experts sur des sujets et des experts externes. Donc ça peut être en marketing, sur des avocats, des conseillers sur du foncier, enfin voilà. Donc ça c'est 50-50 dans leur conseil d'administration.
Autre aspect sur lequel la différence d'argent est assez importante, l'immobilier. Alors que la plupart des organisations de Sheffield n'ont pas vraiment d'endroit fixe, comme Stéphane il explique, à Bristol, le mobilier est un élément central de l'autonomie des structures.
Il y a 2 structures, le Bristol Festival et le Watershed, qui en fait ont acheté leurs locaux tout simplement pour plusieurs raisons. Être une source de revenus, parce que du coup ils font de la location à des structures culturelles et une part non négligeable dans leur budget. Et puis aussi parce que ça permet vraiment de faire du réseau interne. Donc ils accueillent comme ça des structures culturelles triées un peu sur le volet. Et pour le Watershed, c'est vraiment à l'échelle d'un quartier parce qu'ils ont carrément acheté quasiment tout le quai. Et ils sont en train de voir pour augmenter leur bâtiment. Je ne sais pas combien de mètres carrés ça peut faire, c'est assez énorme. Ça ressemble vraiment au quai, quai des Antilles chez nous, comme s'ils achetaient comme ça toute la rangée de restaurants. Et du coup, ils ont cleané le quartier en choisissant quel type de restaurant, de bar, de magasin allait se coller à côté d'eux. Comme là, c'était un quartier un peu qui craignait un peu, beaucoup d'alcoolisme, etc. Clairement, là, ils sont en train de faire un quartier un peu hype, super branché, en mettant aussi à la rue ceux qui collent pas à l'image qu'ils ont envie de faire de ce quartier-là.
Mais il existe une disparité entre les structures à Bristol qui ont toute l'opportunité et la capacité financière de faire ce qu'ils souhaitent, et chacun a donc parfaitement son autonomie, ce qui peut être plutôt une mauvaise chose comme au Watershed.
Notre expérience au Watershed a été so-so. Disons qu'on a rencontré plein d'interlocuteurs au Watershed. L'ensemble du Watershed est plutôt une structure assez autonome, pas forcément tournée vers l'extérieur.
Ou une bonne chose pour la collaboration entre les structures au niveau européen, comme avec le Bristol Festival du moins, tant que les Britanniques sont toujours membres de l'UE.
Tout est en train de potentiellement se refermer pour eux, le champ, le périmètre d'action, avec les histoires de Brexit. Une envie très très forte pour eux de justement aller au-delà de ces frontières, au-delà de ces ruptures possibles, et de continuer à être dans des dynamiques d'échanges là aussi, voire européennes.
Les échanges de Bristol et de Sheffield restent dans les têtes de tous et continuent d'alimenter les réflexions dans tous les pôles, mais maintenant c'est direction Londres. Et à Londres, on parle d'écologie, comme le dit Lise.
Et hop, un chantier de plus. Et non, Mathilde, elle m'avait dit pas chantier. Donc initier une réflexion commune. Voilà.
Surtout la question qui se pose, c'est le rôle que la culture peut être amenée à prendre dans la réflexion environnementale. Là encore, c'est Lise qui nous l'explique.
La culture et la créativité, on a noté que ça permettait souvent de réfléchir, de s'interroger, compris sur ses propres pratiques, de façon très générale. La culture incite quand même à se poser des questions. Les œuvres d'art peuvent avoir un message sur la durabilité, que les œuvres sont en général adressées à un public, donc il y a ce lien direct qui est fait avec d'autres personnes. personnes. Toujours dans cette même idée, les lieux culturels peuvent être des espaces de rencontre et de discussion. Dans les pôles, ça pouvait être l'occasion d'un travail aussi resserré avec les équipes.
Assez rapidement lors des conversations, des bémols sont soulevés, principalement quant à la création artistique, comme l'explique Benoît Marie.
Je crois qu'il n'y a pas un artiste qui est insensible à la question de l'environnement et du développement durable. Par contre, quand ça vient s'insinuer dans des questions de création, en fait, ça devient tautologique.
La crainte qu'on force la création artistique à traiter d'un sujet. Crainte vite comprise et à laquelle répond immédiatement Emmanuel, qui fait tomber tout le monde d'accord.
C'est-à-dire pas tout social, pas tout environnemental, pas tout. Néanmoins, ce sont des considérations que... on va avoir de plus en plus de mal à ne pas prendre en compte, en fait. Et du coup, dont on ne peut pas faire l'économie. Mais, tu vois, sans verser dans la tautologie, justement, voilà, en disant « je ne fais que parler des glaciers ».
Après, sur des questions de production, c'est tout à fait évident, enfin.
Mais finalement, en fait, sur les questions de production, ce n'est pas tout à fait évident, puisque l'autre problème immédiatement soulevé est celui du coût de ces changements, comme nous l'a dit David Battard pour le cinéma.
On a beaucoup de machines. Et je pense qu'il n'y a pas assez de travail qui est fait par rapport aux installateurs, aux fabricants de matériel, par rapport à ça. Parce que, bon, on a des solutions techniques aujourd'hui qui existent, qui coûtent cher, mais on pourrait réduire l'impact écologique, énergétique en tout cas. Nous, on n'a pas les moyens économiques pour le faire. Technique, oui, mais pas économique.
Une fois ces objections posées, c'est le plan de bataille des pôles pour la transition écologique dont il est question. Et pour Julien,
la priorité, c'est d'éditer de la data, mais surtout de la communiquer au grand public.
Les gens identifient, pas forcément qu'ils fassent du boycott, mais du boycott.
Ce qui mène rapidement Lise à proposer la mise en place d'un questionnaire pour les membres des pôles afin d'identifier leurs besoins.
Réfléchir à un questionnaire à diffuser largement pour avoir une idée d'où en sont les adhérents, les structures, etc. Et de voir ensemble ce qu'on peut construire, voilà, s'ils ont plutôt besoin d'ateliers de formation, s'ils ont besoin d'outils très pratiques, s'ils n'en ont rien à foutre et auquel cas il faut vraiment activer les choses. Voilà.
À partir des réponses dans ces questionnaires, l'idée est donc de formuler des sortes de livres blancs.
Concrètement, qu'on puisse par exemple éditer des guides pratiques de bonne conduite, voilà. Après, peut-être avec des spécificités par secteur ou même par métier, mais en tout cas des choses très concrètes qu'on pourrait avoir, vraiment des guides ressources à disposition. Oui. On a parlé de livres blancs.
Michel précise toutefois que ces questionnaires et ceux qui en résultent doivent avoir une application pratique immédiate pour les membres.
Plutôt que d'essayer de partir sur quelque chose de trop vaste, essayer de poser une ou deux pierres pour faire que les gens se rendent compte que c'est utile. En fait, c'est un intérêt à la fois général, mais aussi un intérêt personnel.
Élément important de la réflexion et des conversations, la nécessité du travail en interpôle qui doit s'appuyer sur des structures déjà existantes.
Cette collecte de données donc, soit vraiment portée par les cinq pôles et en soutien effectivement des financeurs, la DRAC, la région, aussi peut-être avec l'Europe, parce que du coup ça vaudrait peut-être le coup d'aller les solliciter, et de s'appuyer sur l'ADEME.
L'Agence de développement environnement maîtrise énergétique.
Et ce n'est pas les pistes d'organismes de coopération qui manquent visiblement.
On a listé quelques structures en Pays de la Loire qui font déjà, qui réfléchissent un peu à tout ça. En art visuel, il y a quelque chose qui s'appelle Laboratoire de paysage.
Il y a un éditeur qui est installé près de Nantes qui s'appelle La Mer Salée.
Le réseau Éco-Événement, dont l'acronyme est RÈVE. En audiovisuel, il y a une structure nationale qui s'appelle EcoProd. On s'est dit qu'il fallait voir s'il y avait d'autres exemples en région et quel financement la ville, enfin la métropole ou la région pouvait éventuellement mettre là-dessus.
L'idée est donc de s'organiser en interne et d'aménager du temps d'échange des pratiques.
Créer des espaces d'échange sur ces questions, de faire un plan de formation commun, de mettre en place des outils de sensibilisation, des ressources électroniques ou papier pour les membres. Penser tout ça en interpôle, parce que c'est finalement des questions qui dépassent spécifiquement nos pôles. Et du coup, on s'est demandé si on n'avait pas intérêt, ou enfin en tout cas, voilà, on se posait la question d'organiser une rencontre interfilière autour de ces questions-là pour lancer un chantier commun.
Ce genre de pratique a en plus la possibilité d'un retour financier quasi immédiat pour les filières.
L'idée, ça serait d'écrire un plan d'action commun qui servirait aussi ensuite aux financeurs pour qu'ils puissent prendre conscience que voilà, cette question environnementale elle a été intégrée dans les différents pôles au niveau régional.
Une critique revient néanmoins souvent, ces discussions seraient trop désincarnées, trop sur des principes, sans trop de propositions concrètes. Mais là encore, Emmanuel répond rapidement à ce problème.
Le sectoriel, c'est le job de chacun d'entre nous, et c'est à nous d'apporter les éléments tangibles pour rebondir sur la méthodologie de projet, c'est-à-dire mettre des gens autour d'une table, commencer par des toutes petites prises de conscience et des analyses vraiment très circonscrites.
De plus, même l'interprète participe à la conversation et ajoute elle aussi aux propositions.
Par exemple, il y a une signalétique au niveau de l'information alimentaire, donc quelque chose qui a eu beaucoup d'impact au niveau de la sensibilisation des gens par rapport à si les aliments sont gras ou sucrés ou quoi. Ils ont un système de vert, orange et rouge. Oui. Ça marche bien.
C'est simple, clair, lisible.
Peut-être que vous pourriez avoir un système de signalétique qui s'inspire un peu de ça.
Mais le mot de la fin revient à Chiara Badiali, l'interlocutrice de Julie's Bicycle, qui fait part de son expérience et donne ainsi l'un des meilleurs conseils de la rencontre.
I guess one of the questions for you to think about as well is sometimes if these questions are coming up for you, they're probably coming up for your membership as well. So even quite a small intervention might be doing a small event or a discussion or a roundtable on an issue like that to actually get people to talk about it in the first place.
Il est temps pour nous de repartir en Pays de la Loire, l'esprit plein de ses nombreuses réponses, mais de d'autant plus de questions. En somme, et si je devais résumer, les Britanniques sont
pragmatiques.
Sur l'observation
pragmatique.
Sur la communication et son
pragmatique.
Sur l'animation de communauté dans le domaine culturel britannique donc, un mot d'ordre.
Pragmatique.
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 Culture Next Door.
Culture Next Door.
Culture Next Door.
Les pôles culturels régionaux à la découverte de structures culturelles en Europe.